Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un séminaire à deux voix avec le professeur Willem Jongman de l'Université de Groningen aux Pays-Bas. Et avant de le présenter, je voudrais remercier en notre nom collectif le professeur Jongman d'avoir accepté de faire ce séminaire que nous avons préparé et de le faire en français. Alors que, bien entendu, sa langue maternelle est le néerlandais et que sa langue de travail est l'anglais. Mais vous allez voir, il parle un français tout à fait décent, surtout lorsqu'on a un peu préparé à l'avance. J'ai déjà eu l'occasion de présenter le professeur Jongman lors de sa première conférence qu'il a donnée mercredi dernier. Et je vous rappelle qu'il en donnera une demain sur l'histoire en général, les standards de vie à l'époque romaine. Mais comme beaucoup d'entre vous n'étaient pas présents, c'est un plaisir d'expliquer à nouveau pourquoi j'ai tenu à l'inviter au nom du Collège de France à intervenir chez nous. C'est parce que, bien avant ces autres écrits de synthèse, beaucoup plus récents, son ouvrage paru en 1988 et réédité en 1991, qui s'appelle « The Economy and Society of Pompeii », fut, pour l'archéologue de terrain que je suis, une incitation à mettre en perspective les données archéologiques, voire à remettre en cause les conclusions historiques qu'on pensait pouvoir en tirer. Comme vous le savez, l'archéologie est la seule branche de l'histoire ancienne dont la documentation s'accroît significativement. On commence désormais à reconstituer des séries de faits qui nous manquaient jusqu'à présent pour éclairer tel ou tel aspect des civilisations antiques. En particulier, pour ce qui nous concerne dans ce cours, sur l'évolution technique et économique du monde romain. Mais cette reconstitution de pans effacés de notre histoire ne peut se faire qu'à la double condition que les archéologues interprètent et datent correctement leurs fouilles et qu'ils fournissent des séries d'observations suffisamment nombreuses pour gommer l'hétérogénéité d'une documentation qui sera par nature toujours partielle. L'historien, de son côté, cherche à obtenir des échantillons significatifs qui puissent répondre à des questions que nous voulons poser à notre passé. À ce titre, Willem Jongman a forcé les archéologues à ouvrir les yeux sur leurs présupposés, contestant les acquis d'une longue tradition, que cette longue tradition avait consacrée, et qui se sont avérés erronés, ou pour le moins fragiles. Il écrit qu'il nous a déniaisé, ce qui est en partie vrai. Mais, comme nous allons le voir, son livre salutaire doit être replacé dans le contexte historiographique de son temps. Plusieurs aspects ont fait, à l'époque de sa parution, l'objet de contestations justifiées et surtout l'évolution des recherches archéologiques récentes a répondu à certaines interrogations, mais il demeure que le choc qu'il a provoqué n'en finit pas de nous interpeller. L'archéologue doit continuer à se dire que signifie ce que j'observe, dans quel contexte se situe mon interprétation de tel ou tel vestige, et surtout, comment puis-je démontrer mon interprétation du site que je dégage afin d'intégrer ces enseignements dans la trame historique. À la page 20 de son ouvrage sur Pompéi, Willem Jongman a écrit cette phrase qui m'avait frappé à l'époque. De mauvaises réponses à de bonnes questions sont sans valeur, mais de bonnes réponses à des questions sans importance sont ennuyeuses. Ce qui rejoint finalement l'interrogation permanente d'un autre grand historien de l'Antiquité qui a longtemps enseigné dans cette maison, le professeur Paul Venn, qui se posait toujours la question « qu'est-ce qui est intéressant ?» Et je vous renvoie à son petit ouvrage « Le quotidien et l'intéressant » paru en 1995. Les archéologues passent beaucoup de temps à donner de bonnes réponses à des questions sans importance. au point que notre discipline est noyée dans les détails et qu'on ne voit plus les grandes lignes. Même souvent, on ne voit plus le pourquoi de nos recherches. Cette pesanteur académique et institutionnelle, promue notamment par les services archéologiques des ministères de la Culture en France ou des Beni Culturali en Italie, qui veulent que nous documentions tous les détails, même les plus infimes, et même et surtout ceux que nous ne comprenons pas, finit par être stérilisante. Il est salutaire que, de temps en temps, quelqu'un comme Willem Jongman, un provocateur au sens fort du terme, vienne nous rappeler quelles sont nos dérives et quels doivent être les enjeux réels de nos recherches. Quelqu'un qui remette en cause des idées reçues, rabâchées dans une bibliographie surabondante, pour leur substituer des explications souvent dérangeantes, parfois erronées, mais qui nous obligent, en retour, à reconnaître soit qu'il est dans le vrai, soit à affûter nos arguments pour démontrer qu'il a tort. C'est cet exercice auquel nous allons nous livrer maintenant. Je vais d'abord lui laisser la parole pour qu'il nous présente son livre paru il y a presque 30 ans maintenant, pour qu'il nous en explique le contexte et pour qu'il nous dise en quoi et pourquoi sa pensée a évolué. C'est à vous, mon cher.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aucun site antique ne frappe l'imagination plus que Pompéi. Tout d'abord, bien sûr, l'histoire de sa fin tragique émeut profondément associée aux images de Sodome et Gomorrhe. C'est encore plus important à une époque où, avant les animations en trois dimensions, on a fait sensation d'entrer directement dans le passé. Vous pouviez marcher à travers les rues et imaginer que vous étiez transporté dans la ville antique. C'est ce que les guides touristiques modernes essayent de vendre aux visiteurs modernes. L'idée que tout ce que vous avez à faire est de venir voir et acheter le guide. Comprendre ce que vous voyez serait facile. En l'accompagnant d'une série de comparaisons entre le passé et le présent, on aboutit à la conclusion rassurante. Regardez, ces gens-là étaient comme nous. Si seulement écrire l'histoire était si facile. Et pourtant, l'attrait du site est indéniable, car il ouvre nos yeux à une antiquité tout à fait différente de celle que les sources littéraires nous présentent. L'historien le plus important à être tombé sous le charme de Pompéi fut peut-être le jeune Mikhail Rostovtsev. Il visita Pompéi alors qu'il était étudiant en 1891-12 et rédigea une dissertation. Cette visite lui fit prendre conscience des possibilités offertes par l'archéologie pour renouveler l'historiographie du monde classique. De même que le Rostovtsev de l'âge mûr était guidé par son expérience de la Révolution russe, le jeune Rostovtsev fut marqué par sa visite à Pompéi, comme beaucoup de nous, évidemment. Son approche de la société romaine et son modèle de l'économie romaine ont été façonnés de façon décisive par ce qu'il a vu à Pompéi ou par ce qu'il a cru voir. Il fut impressionné par la richesse et le confort dont jouissaient les habitants de Pompéi et il assimilait ses habitants à ceux de son temps. Pour nous, cela peut sembler absurde, mais si nous nous replaçons dans la perspective de son époque, cela ne l'était pas. L'Italie d'alors entrait à peine dans le monde moderne et il en était de même encore plus fortement de la Russie tsariste. Selon Rostovtsev, cette prospérité était due à l'action de la bourgeoisie commerciale de la ville. Encore une fois, cela montre qu'il est un homme de son temps. Cette explication révèle sa faiblesse analytique, mais la dense description archéologique qu'il donne marque une révolution historiographique et méthodologique. Avec l'approche de Pompéi par Rostovtsev, nous avons, je pense, les deux thèmes principaux de notre discussion. Le premier est celui d'une évaluation de la performance économique de la ville antique, et le second est celui des explications possibles de ce succès, la plupart étant sociales et culturelles plutôt qu'économiques. Le modèle moderniste de l'économie romaine proposé par Rostovtsev n'a été contesté que dans les années 1960 par un type tout à fait différent d'historien, Moses Finley, professeur à Cambridge. Et mon professeur là. La description détaillée et le positivisme intuitif n'étaient pas de son genre. Au lieu de cela, il a proposé une autre forme d'analyse, conceptuellement sophistiquée. Comme beaucoup d'historiens de son temps, il avait pris conscience de la différence fondamentale entre le passé et le présent, incomparablement plus moderne. Le passé était une terre étrangère, avec des normes et des valeurs et des conditions différentes des nôtres. L'écart entre le monde pré-industriel et notre monde moderne était énorme, à la fois culturellement et moralement et économiquement. En fait, pour Finley, le monde gréco-romain était si fondamentalement différent que, selon lui, les outils modernes d'analyse sociale, tels que l'économie moderne, n'avaient guère de valeur pour comprendre une société qui, selon lui, ne répondait pas aux mécanismes du marché. C'était une position qui nous ramenait à une opinion ancienne, en fin de compte à celle de l'école économique historique allemande du 19e siècle, rejetant l'économie de marché libéral. C'était aussi une vision profondément pessimiste de l'Antiquité, vue comme un monde où la masse de la population vivait à la limite du niveau de subsistance et où la richesse était concentrée entre les mains d'une élite de propriétaires relativement étroite. Contrairement à l'aristocratie médiévale, ces propriétaires fonciers romains vivaient dans les villes. Ils formaient une élite urbaine, mais ce n'étaient pas des entrepreneurs investis dans le commerce et l'industrie. Ils se tenaient même éloignés du commerce et de l'industrie, seulement motivés par leur culture dominante de rentier du sol, dédaignant les métiers déshonorants. Ainsi, le marché serait resté relativement sans importance dans l'économie de l'Antiquité. Ainsi, il n'y aurait pas eu de croissance économique, ce qui permettait à Finley de mélanger librement des anecdotes concernant la Grèce archaïque, l'Antiquité tardive ou le monde de toute période intermédiaire. Il n'y a pas de changement, aucune. L'histoire économique de Rome faisait la part belle aux structures et ne connaissait pratiquement aucun changement véritable. Au final, l'explication de cette structure sous-développée était culturelle. Finley a également apporté une contribution importante à l'histoire urbaine, puisque les villes antiques étaient dans leur majorité des villes dont les activités commerciales et productives étaient de faible ampleur, et puisqu'elles étaient dominées par l'élite des propriétaires terriens, elles ne pouvaient créer une division dynamique du travail entre la ville et la campagne. Cette dynamique qui fut au cœur de l'évolution des temps modernes. Au lieu de cela, ces villes étaient des parasites, vivant des rentes agricoles. Telle était la situation historiographique dans les années 1970 et 1980, avec les débats animés sur le niveau d'intégration du marché et la place de la monnaie, sur le volume du commerce à longue distance, sur la mentalité des acteurs économiques et sur la composition des élites urbaines et ses bases économiques. Il est intéressant de constater que ce débat n'a pas concerné Pompéi. L'archéologie pompéienne n'a fait guère prospérer intellectuellement sous le régime fasciste et l'esprit de clocher d'après-guerre. Et la même chose s'appliquait à l'étude de son extraordinaire et unique épigraphie. C'était une situation assez horrible. Le changement vint avec la publication du livre de Pavre Castrin, donnant une vision rigoureuse de la prosopographie de l'élite urbaine et de l'étude magistrale de Jean Andreau sur les archives du banquier Lucius Caecilius Jugundus. Ce sont des études, et aussi mes professeurs Harry Plaquet et Moses Finley, qui m'ont encouragé à ramener Pompéi dans le débat. Voici donc ce que j'ai fait dans le livre intitulé « The Economy and Society of Pompeii ». Maintenant, il existe une édition pour consulter au téléphone même. Après un chapitre d'introduction où j'ai défendu l'usage de théories économiques modernes et contre les opinions de mes professeurs et contre presque l'unanimité des historiens de l'Antiquité, je posais que ce que je croyais, et je crois encore, être le problème fondamental de l'économie antique, la pression démographique sur un territoire donné. La densité de population était comparativement élevée dans le monde romain et certainement en Campanie pour les performances agricoles limitées. En théorie, la pression démographique s'accompagne d'une faible productivité de travail et bas revenus. En revanche, puisque la même pression démographique diminue la surface agricole disponible pour chacun, ceux qui disposent de grandes propriétés terriennes jouissent de revenus élevés et les inégalités sociales se creusent fortement. Ainsi, l'agriculture est le fondamental même de la discussion. L'orthodoxie pompéianiste voulait que l'agriculture soit dominée par la viticulture et l'arboriculture pratiquée dans les villes qui avaient été fouillées autour de Pompéi, et en particulier au nord de la ville, dans la direction du Vésuve. En bref, une agriculture tournée vers le commerce. Contre cette théorie, j'avais avancé deux arguments. Le premier était que ce modèle ignorait les besoins basiques de la nourriture de subsistance de la population en ce qui concerne les céréales. Le second était qu'il prenait en compte seulement une petite partie du territoire, celle que l'on a découvert. Où l'on a découvert des villes et non la partie méridionale et orientale du territoire où très peu de villes sont attestées. Ma propre reconstruction prend en compte ces deux critiques. J'ai proposé l'idée que la céréaliculture dominait dans la plaine du Sarno afin de nourrir la population locale. L'étape suivante a consisté à examiner la production urbaine et la filière textile en particulier. Un ouvrage sur l'industrie de la laine à Pompéi venait juste d'être publié par Walter Müller qui affirmait que l'économie urbaine de Pompéi était dominée dans sa première phase par l'industrie textile qui produisait pour l'exportation et qui était contrôlée par l'élite locale comme au Moyen Âge. Aussi, je fus conduit à réexaminer tous ces ateliers et je conclus que les preuves de leur fonction en tant qu'atelier textile étaient minces. Tout comme les preuves concernant l'engagement de l'élite dans ses activités productrices. Ma contre-proposition était que la production textile était destinée à la consommation locale et pas plus, et pas beaucoup plus. Ainsi, autant dans mon analyse de l'économie rurale que dans l'économie urbaine, j'aboutissais à la conclusion qu'on a fait affaire principalement à une économie tournée vers l'autosuffisance. La seconde partie du livre concerne la structure sociale et politique de la ville. Une fois de plus, la question portait sur l'existence ou non d'une bourgeoisie commerciale. J'ai d'abord étudié les archives de la franchise Lucius Cecilius Secundus, qui exerçait la profession de banquier. Cette tablette venait d'être admirablement étudiée par Jean Andreau. Il avait établi que l'ordre des signatures des témoins des documents bancaires reflétait leur position hiérarchique dans la société, les personnages les plus importants signant les premiers. Reclassant l'ensemble de ces personnages, j'ai obtenu une liste de 300 témoins recrutés dans une population de témoins d'environ 500 ou 600 personnes. Puis j'ai étudié ce qui faisait la distinction entre ceux qui étaient en tête de liste et ceux qui étaient à la fin. J'en ai conclu que ces critères les plus traditionnels, tels que l'appartenance au conseil municipal ou la naissance libre, étaient plus importants que la richesse. La richesse était donc une condition nécessaire, mais non suffisante de la respectabilité. Le dernier chapitre étudiait la politique pompéienne, en particulier la propagande et les procédures électorales. Comme vous le savez certainement, les rues de Pompéi étaient couvertes d'affiches électorales peintes et la multiplication de ces affiches fut interprétée comme une preuve que les élections étaient libres et démocratiques, autre manifestation d'une société bourgeoise. J'ai montré qu'il n'en était rien. Les candidats aux magistratures étaient très riches et de naissance libre. De plus, je pus démontrer que, pour les magistratures les plus élevées, il n'y avait jamais plus de deux candidats pour les deux postes de duoferie, comme au Soviet Union, Union soviétique, et que pour les candidats de l'édilité, il n'y avait que deux paires de deux candidats pour deux postes, l'une des deux paires jouissant un soutien officiel des dirigeants de la colonie. De façon significative, les deux candidats qui n'avaient pas de patronage officiel font l'objet d'un nombre d'affiches beaucoup plus élevé que les autres. Là encore, je ne vois aucun signe rappelant la société bourgeoise. Au contraire, je note la domination de l'élite foncière et l'emploi du parrainage pour contrôler le montée des hommes nouveaux qui s'agrègent à l'élite par la gestion des magistratures. Au total, j'ai abouti à la reconstruction assez pessimiste d'une société agraire assez similaire au tiers-monde et où, à l'intérieur, le pouvoir traditionnel de l'aristocratie terrienne n'avait pas été ébranlé. C'est tout.
Bien, merci de cette excellent résumé qui nous replace donc dans la situation à l'époque et des principaux résultats. Bien entendu, ces résultats ont été contestés au fil du temps, à l'époque et au fil du temps. Et je ne vais pas me priver, effectivement, de les contester moi-même. Je propose de commencer par les questions qui font probablement le plus consensus désormais pour aller vers les désaccords persistants. Il faut souligner deux aspects essentiels de votre démarche qui, après quelques critiques de détail, ont fini par emporter le consensus général. La première est l'utilisation des méthodes et théories qui supportent l'analyse économique moderne, qui suppose l'analyse économique moderne appliquée aux sociétés pré-industrielles. La seconde démarche est la critique lucide des données épigraphiques pour analyser les comportements socio-économiques par rapport à sociopolitique par rapport à la situation économique. Je commence par la première. L'idée fondamentale de l'application des méthodes modernes est que l'espèce humaine a des besoins de base qui transcendent les conditions culturelles. Il faut que l'homme ingère un certain nombre et un nombre minimum de calories, il faut qu'il couvre son corps dans les pays tempérés et il faut qu'il ait un abri pour ne pas mourir de froid ou de faim. Cela implique plutôt qu'avant toute recherche sur un éventuel développement économique qui aboutirait à des excédents ou à du superflu, il faut examiner d'abord comment une société assure la satisfaction de ses besoins de base. Il s'agit de déterminer ce que Fernand Braudel appelle les limites du possible dans son fameux ouvrage « Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 16e, 18e siècle ». Ces limites sont, dans une société pré-industrielle, des contraintes insurpassables. Les archéologues travaillant sur Pompéi le savaient intuitivement, mais ils n'en tenaient pas trop compte en réalité, restant dans un flou confortable. Wim Jongmans s'est efforcé de calculer, pour une population donnée, combien de surfaces cultivables devaient être consacrées aux céréales pour nourrir les habitants de la ville et de sa campagne, avant même qu'on en vienne à discuter le volume d'exportation du vin. En effet, les archéologues sont éblouis par le vin. La viticulture présente deux avantages pour nous. Elle livre des vestiges de production bien reconnaissables et parfois spectaculaires, et, au moins dans l'Italie de la République et du Haut Empire, le vin est commercialisé dans des amphores qui ont le mérite de se conserver éternellement, d'être aisément identifiable et de nous livrer des étiquettes peintes fort précieuses donnant le nom du vin, l'année de production, le nom du propriétaire et ou du commerçant. On comprend qu'une abondante littérature ait été générée par la filière viticole qui, de plus, se prête à des analyses culturelles et à des digressions érudites sur les sources antiques. On peut citer Pline, les poètes, les satiristes comme Martial, toutes citations et gloses qui sont fort goûtées dans les joutes académiques. Les céréales sont bien moins excitantes. Les archéologues, même à Pompéi, peinent à mettre en évidence leur présence, d'autant plus que, jusqu'à récemment, ils ne prenaient pas la peine de tamiser à l'eau pour récupérer les graines. Tout au plus, peut-on décrire et commenter la partie terminale de la filière, les meuneries et les boulangeries ? Mais cela ne nous donne aucun indice sur le niveau de production, d'autosuffisance ou de possible exportation. Bref, les céréales sont restées les mal-aimées des archéologues jusqu'à ce qu'on commence à les étudier systématiquement en déterminant et en comptant les graines. C'est un travail qui est déjà bien avancé pour le nord-ouest de l'Europe. Je vous renvoie par exemple aux études de Véronique Materne du CNRS. Il commence ailleurs, mais nous sommes loin, en Italie, de disposer de bases statistiquement fiables. À Pompéi, point n'est besoin de dire qu'un énorme potentiel a été gâché par le passé. Et sur ce plan, l'accent mis par Willem Jongman sur cette question doit forcer les archéologues à trouver, par tous les moyens, de nouvelles données pour répondre à ces interrogations. Cela pourrait passer, par exemple, par un programme spécifique sur quelques sites dits mineurs de la plaine du Sardo pour vérifier ces hypothèses sur des cas concrets. Mais ai-je besoin de dire que fouiller une riche villa avec ses peintures, ses mosaïques, ses œuvres d'art est autrement plus motivant pour les fouilleurs. Si l'on veut progresser sur cette question, il faut donc sortir des sentiers battus, cesser la chasse au trésor, en quelque sorte, et nous intéresser enfin aux fermes des pauvres. Il serait temps de bâtir un programme sur cette question. Ceci étant, la recherche des limites du possible part d'un certain nombre d'hypothèses sur la population, sur la surface agricole disponible, sur les rendements moyens en céréales, etc. Les estimations proposées par Willem Jongman aboutissent à une situation où la surface agricole que l'on pouvait consacrer à des cultures exportatrices et rentables, telles que le vin par exemple, était très limitée. Le problème réside bien entendu dans les estimations de base. La marge destinée aux cultures exportatrices peut augmenter notablement si la population de Pompéi était un peu inférieure aux 15 000 personnes estimées, ou si les rendements sont, du fait d'une meilleure façon de cultiver qu'au début de la période moderne, légèrement plus élevés. Bref, il suffirait de jouer sur la marge de ces chiffres pour dégager des surfaces cultivables en production destinée à l'exportation beaucoup plus importante. Donc ma question est, quelle est votre position aujourd'hui sur les estimations de base, sur les modes de calcul et sur les résultats auxquels vous parveniez? Et la deuxième question qui est liée, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ces paramètres? Et si ce n'est pas le cas, comment faudrait-il les modifier?
Merci beaucoup. Oui, vraiment. Et j'ai changé mes opinions. mes opinions présentes sur les estimations de production et de consommation. Je continue de penser que beaucoup sont globalement justes. Je pense encore que la population urbaine était d'environ 8 000 ou 12 000 inhabitants. Je crois aussi que mes estimations du territoire d'environ 200 kilomètres carrés, alors 20 000 hectares, sont plus ou moins correctes, avec une population d'environ 180 personnes par kilomètre sont aussi plus ou moins correctes. Il est très difficile de s'imaginer d'autres possibilités. Microflore, par exemple, a récemment estimé qu'il y a fait seulement 100 kilomètres carrés. C'est possible, mais ça, l'implication est que le pourcentage de la population de Pompéi qui vivait dans la cité est beaucoup plus élevé, qu'il est normal pour une société près de ciel. C'est simplement, je crois, impossible d'avoir une si grande population urbaine avec un si petit territoire. Alors, il n'y a pas beaucoup de possibilités de changer, et je ne crois pas qu'il est possible de diminuer la population urbaine, parce qu'il y a simplement beaucoup de maisons par là, et demain, environ 500 grandes maisons. On ne peut pas vivre dans une telle grande maison avec des domestiques, alors 10 ou même 20 personnes par maison n'est pas extraordinaire. Ils sont de très grandes maisons. Alors, 10 fois 500, c'est déjà 5000. Alors, je ne crois pas qu'une population plus basse est possible. Et, à vrai dire, je crois que la population était plus élevée que j'estimais il y a 30 ans. Alors, territoire, d'accord, encore, population urbaine, je crois maintenant, peut-être un peu plus élevée, le problème est, je crois, le besoin des céréales est encore très sérieux, il y avait 30 000, 40 000 habitants, ils devaient manger du pain. Et les auteurs précédents l'avaient simplement ignoré. Alors, il avait besoin de produire des céréales. Il n'est évidemment pas possible d'être très sûr comment de territoire on avait besoin de produire tout ça. Mais, plus ou moins correct, mais il y a un problème à propos du vin. Et ça, c'est la situation. Ça, c'est l'estimation que j'ai changée. La production de vin ne nécessite pas énormément de terres. Et les vignes peuvent être conduite sur des arbres. En bref, c'est là où je voudrais savoir faire la différence. La population peut être aisément le double, la production peut être aisément le double de mes estimations et destinée à l'exportation. Je crois que ça, c'est la plus grande différence maintenant avec mes opinions.
Oui, bon, au fond, ça rejoint ce qu'on observe sur le terrain, parce qu'il y a quand même toutes ces installations vinicoles qui sont clairement liées à la richesse des villets et probablement des propriétaires. Donc je crois qu'effectivement, c'est un point qui est essentiel. En ce qui concerne la population, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que toutes ces grandes maisons supposent une nombreuse domesticité. À 10 domestiques pour une grande maison, on est certainement très en dessous des réalités. Il faut quand même imaginer probablement beaucoup plus que ça. Et à côté de ça, nous savons désormais, puisque nous les avons recomptés, qu'il y a un très large habitat d'artisans, de boutiquiers, oui, de gens pauvres,
en plus, oui,
qui s'entassent dans des... évidemment, maisons qui sont beaucoup plus petites, qui ont des étages, au moins un étage. Et donc, il faut aussi prendre en compte. Donc, une estimation relativement haute est probablement justifiée pour la ville, c'est-à-dire peut-être entre 10 et 15 000 habitants, ce qui, évidemment, suppose un territoire intensément cultivé pour la nourrir. Donc, je vois en quoi vous avez évolué de ce côté-là, et je voudrais qu'on en vienne maintenant à aborder notre apport majeur de votre livre qui concerne l'analyse des comportements sociopolitiques par rapport à la situation économique. Vous avez démoli, à juste titre, les théories d'Amedeo Maiori sur l'envahissement de Pompéi par les affranchis nouveaux riches qui auraient occupé les anciennes maisons aristocratiques avec leurs ateliers et leurs boutiques, et qui auraient pris les commandes de la ville. Vous avez démoli les attributions des maisons à des personnages dont le nom est inscrit sur la façade et dont Matteo Della Corte, dans son ouvrage Casa degli Abitanti di Pompei, avait fait un usage erroné et abusif. Vous avez mis de même à bas, vous l'avez dit, les théories de Walter Müller, qui voyait dans les foulons le symbole de la réussite d'entrepreneurs qui, par leur travail et l'élargissement de leurs affaires à l'ensemble de la filière textile, seraient arrivés au poste de dirigeant politique, montrant que l'attribution traditionnelle d'une foulerie à Lucius Veranius Ipsaeus ne tenait pas et qu'il n'y avait pas de concentration verticale, comme Müller l'avançait, en se fondant sur le cas d'un certain Marcus Vesonius Primus qui aurait été foulon, un foulon qui possédait à la fois des fouleries et la grande tannerie de Pompéi. Et vous avez donc montré que ce personnage n'existe pas, car c'est une chimère formée de l'assemblage artificiel de plusieurs inscriptions. Vous avez aussi montré que l'incontestable ascension sociale de certains affranchis s'était faite sous le contrôle de l'élite foncière par le biais des patronages et non de façon autonome contre la classe dirigeante qui n'a véritablement jamais relâché sa domination. Sur toutes ces questions, votre critique radicale a anéanti des décennies de publications et cette œuvre salutaire a été, de nettoyage en quelque sorte, a été bien saluée par la critique. Mais ma question est, par quoi remplacez-vous l'ancien modèle qui prétendait expliquer le développement économique de Pompéi par la montée en puissance de la classe nouvelle, celle des affranchis? Vous avez considéré que fondamentalement, rien n'avait changé par rapport à la période samnite et qu'il n'y avait pas eu de décollage réel de l'économie. Pompéi restait, à la fin de la République et sous l'Empire, une ville parasitaire, selon vous, sans industrie, entre guillemets, sans industrie propre à procurer des revenus par des exportations. Vous avez considéré que les exportations de vin avéré n'étaient pas très importantes, et vous avez estimé que toute forme d'artisanat était tournée principalement vers la satisfaction des besoins de l'élite foncière, soit directement, par exemple, par les foulons nettoyant les vêtements ou les artisans de luxe qui faisaient les bijoux ou qui préparaient les parfums, soit indirectement, par exemple, par les forgerons fabriquant les outils utilisés dans les domaines agricoles de l'élite. Comme l'économie n'avait pas tellement changé, il n'y avait pas de raison de chercher un bouleversement social et politique. C'est là que nous divergeons. Je ne conteste pas que le pouvoir social et politique soit resté entre les mains de l'élite traditionnelle, renouvelé continuellement, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, par le hasard des décès qui, dans des sociétés totalement démunies face aux maladies infectieuses, fauchaient souvent des familles entières et annihilaient les descendances. Mais je crois d'une part que certains membres de l'élite ont été plus actifs dans la gestion de leur patrimoine que ne le voyait Moses Finlay, et que certains ne se sont pas contentés de vivre de leur rente, mais qu'ils ont utilisé leurs esclaves et leurs affranchis pour gérer des entreprises plus ou moins grandes, plus ou moins rentables, mais qui diversifiaient et augmentaient leurs revenus. On en a la preuve en ce qui concerne les briqueteries et la fabrication des dolias, de ces grandes jarres, grâce aux marques que nous retrouvons sur ces produits. Mais le même phénomène a pu jouer dans d'autres secteurs sur lequel l'archéologie est par nature muette, comme le textile, sur lequel, question sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. D'autre part, il me paraît incontestable que certains individus, ingénus ou affranchis, ont fait prospérer des entreprises qui n'étaient pas liées à l'agriculture. C'est le cas notamment d'Aulus Umbricius Caurus, qui développa un artisanat réputé des salaisons de poissons, et qui put acquérir, comme je vous l'ai expliqué, dans les années 30 de notre ère, une splendide demeure ouverte sur la mer et dont le fils parviendra à la plus haute magistrature de la ville. On peut considérer que c'est une exception. Mais on peut penser aussi, et c'est mon cas, que c'est un des exemples qui montre l'existence d'un groupe de vrais entrepreneurs. Certains resteront anonymes, comme le tanneur qui fit construire la grande tannerie près de la porte de Stabie, dont nous ne savons ni le nom ni le statut. Bon, on soupçonne que ça devait être un affranchi. Le cas est intéressant parce que je suis à peu près certain que cette entreprise n'appartenait pas à un aristocrate, mais bien à un maître tanneur. En effet, comme je le montrerai dans un cours qui viendra, c'est l'artisan lui-même qui a fait installer, quelques années avant l'éruption, un triclinium d'été au milieu de ses ateliers. On ne peut pas imaginer un autre personnage qu'un homme de l'art donner des banquets dans ce contexte, à cause notamment des fortes odeurs qui devaient y régner. Il y a d'autres exemples, comme l'exploitant de l'atelier de bronzier du Fondo Barbatelli au nord de la Porta Vesuvio, c'est-à-dire en dehors de la ville. Et enfin, il doit y avoir des marchands qui ont fait de solides fortunes, mais qui sont bien sûr difficiles à débusquer par les archéologues, car le commerce en gros laisse encore moins de traces que le commerce de détail. Le cas de l'affranchi Caius Munatius Faustus, qui fut Augustalis et Magister Pagi, pourrait être emblématique si c'est bien le même homme qui a écrit son nom sur un rocher du Wadi Meni dans le désert oriental d'Égypte. Le fait que sur son cénotaphe, son épouse Naevelia Tiquet ait fait sculpter un navire marchand rentrant au port montre à tout le moins qu'il avait des intérêts dans le commerce au long cours et donc éventuellement, dans le très lucratif commerce avec l'Inde. Ma question est donc triple. Contestez-vous ces interprétations que je viens de donner? Deuxième question, si vous les acceptez, comment modifiez-vous votre modèle pour prendre en compte ces cas de réussite individuelle, indépendante des fortunes foncières, mais qui semblent finalement assez nombreux? Et pensez-vous qu'à l'origine, les fonds pour démarrer les entreprises des affranchis ont été avancés par le patron et que les bénéfices sont en partie retournés à la famille dominante.
Merci, une fois de plus. Et une fois de plus, nous sommes, je crois, largement d'accord. C'est ennuyeux, mais c'est vrai. Mais je veux aussi souligner l'existence d'un large groupe de gens riches qui ne faisait pas partie de l'élite politique de l'Ordo Decurionum, de 100 personnes. La ville avait environ 500 grandes maisons, alors qu'il y avait un autre groupe d'environ 400 familles riches. Je suis convaincu que la plupart d'entre eux étaient des riches affranchis. Ils étaient la force montante de l'économie. Il nous faut sortir de l'édit de Finlay qui pensait que l'économie croît seulement si la classe supérieure de la société s'implique et investit. Ces riches affranchis pourraient bien avoir été impliqués dans la manufacture, mais probablement aussi dans le commerce et la viticulture. Pourquoi pas? Il est important de se réaliser que dans la recherche récente, l'esclavage rural a diminué d'importance. Bien qu'au même temps, l'esclavage urbain semble avoir été beaucoup plus important, et pas seulement avec le personnel domestique ou dans la prostitution, même si la dernière était une activité d'une très importante quantité. Il faut se réaliser que, à part de toutes les fonctions domestiques et toutes les activités administratives et financières des riches familles, une grande partie des activités commerciales et artisanales furent exercées par des esclaves et des affranchis. Nous le savons par les albums des collèges d'artisans et plus généralement de l'épigraphie urbaine de Pompéi, mais aussi de Rome et d'autres villes. Il y a des affranchis et des esclaves partout. Il est important de se réaliser que le secteur de l'économie avec le plus grand, avec le plus de dynamisme fut dominé par des esclaves et des affranchis, bien que leur patron restait dans l'ombre comme investisseur. Alors, les affranchis, avec le plus de succès, pouvaient devenir riches et demeurer dans de grandes maisons, comme nous voyons à Pompéi. Par exemple, nous les trouvons en grand nombre dans l'archive du banquier Lucius Caecilius Jugendus, ou, si je me souviens bien, environ 80% des témoins étaient des affranchis. Un autre exemple est assez fameux, est celle de le jeune Numerius Popidius Celsinus, qui, à l'âge de 6 ans, a payé pour la restauration du temple d'Isis à Pompéi et fut récompensé avec adlectio dans l'ordre des décurions, cum esset honorum sex, bien qu'il avait seulement 6 ans. En théorie, c'est impossible. En réalité, c'était son père qui, comme affranchi, ne pouvait pas entrer dans l'ordre des curionum et a fait payer pour l'ascense sociale de son fils.
Comment est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui, comment vous verriez, si vous reveniez sur le sujet, comment on pourrait estimer de façon plus précise, dans l'ultime phase de Pompéi, sur laquelle nous avons la plus forte documentation, quelle est la proportion de ces affranchis par rapport à l'élite rurale traditionnelle. Vous avez l'air de dire qu'il y a environ une centaine de familles d'affranchis montants, si on peut dire. Comment est-ce qu'on pourrait mieux préciser ce chiffre ?
C'est difficile. C'est très, très difficile. Malheureusement. Les 100 membres de l'ordre des Crium sont évidemment des
des propriétaires fonciers locaux.
Des propriétaires français et de naissances libres. Et les autres 400, je crois que la plupart sont des affranchis, bien que dans d'autres documents, il y a toujours beaucoup d'affranchis. Aussi, par exemple, dans l'archive de Caecilius Jucundus, où il y a fait beaucoup de gens et presque tout le monde est affranchi. Et ceux-ci ne sont pas d'artisans de modestes positions. Ce sont, je crois, toujours des habitants de grandes maisons. Mais il est difficile d'être sûr. Il y a aussi un argument démographique, parce que la mortalité dans la ville était très élevée, alors c'était les esclaves qui remplacent la population libre, et puis dans la prochaine génération peut-être. Mais toujours, je crois, beaucoup d'affranchis dans la... L'épigraphe funéraire à Pompéi est partout presque. On voit si beaucoup d'affranchis. Et on avait dit, c'est simplement une mentalité épigraphique des affranchis qui veulent,
qui veulent
montrer
se manifester.
Leur position sociale. Je ne crois pas. Je crois que c'est une réalité vraie réalité. Il y avait simplement très beaucoup d'affranchis dans des positions d'importance. On les voit partout.
Donc là, il y a une nouvelle recherche à faire dans ce sens pour essayer de mieux préciser cette proportion. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les archives de Yukundus, il y a un biais du fait que ce qu'il traite, c'est surtout des ventes aux enchères et assez peu, finalement, de biens ruraux. Donc, ça peut fausser un peu la perspective aussi.
Je ne sais pas. Les témoins y participent parce qu'il était une... ils sont là comme témoins, pas comme vendeurs ou acheteurs. Ils sont là comme témoins. Et c'est une occasion sociale de montrer sa position et de participer aux vies économiques et sociales et culturelles, d'être vu, je crois.
Donc finalement, vous pensez que c'est ça reflète assez bien la structure sociale de la ville d'une façon générale, et
je
qu'il n'y a
oui.
pas de biais particulier.
Je crois, oui.
Donc ça, c'est évidemment très, très encourageant du point de vue qui nous occupe. Il est presque 11h, on va s'accorder un petit moment de pause avant de continuer notre discussion sur votre ouvrage, et on reprend vers 11h05, par exemple.